Mais à quoi servent donc les cinéastes? C'est la question un brin provocatrice qui va nous occuper aujourd'hui dans le dossier d'Art d'Art, dossier cinéma à l'École du Parc. Et pour répondre à cette question, vous avez un invité qui est à nos côtés, le sociologue Olivier Meuchler, que nous saluons. Bonjour.
Bonjour.
Et qui n'est évidemment pas là par hasard, puisque la question à quoi servent les cinéastes est en fait l'intitulé de la conférence que vous donnerez, Olivier Meuchler, ce soir à 18h15 à Unimail à Genève. Une conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences baptisé « Les mutations culturelles sous la loupe des sociologues ». C'est organisé à l'initiative du département de sociologie de l'Université de Genève. Alors, Olivier Meuchler, vous êtes chercheur associé à l'UNIL. On vous avait déjà reçu dans d'Art d'Art pour évoquer une recherche que vous aviez faite sur l'évolution des publics de cinéma en Suisse. Et puis ce soir, vous allez inviter le public précisément à la réflexion à partir d'une recherche sur le nouveau cinéma suisse et la politique fédérale en matière de cinéma dans les années 60-70. Recherche qui est en fait votre travail de doctorat, votre thèse de doctorat. C'est bien ça, Olivier Meuchler?
Voilà, c'est toujours délicat de parler d'un travail qui est en train de se terminer, surtout si c'est la thèse de doctorat, mais effectivement c'est
commencé
ça.
Commencé en 2000, j'ai vérifié.
Alors, il y a différentes dates selon comment on réécrit l'histoire, mais une des dates, c'est effectivement 2000.
Alors, on va se demander avec vous, ma foi, à quoi servent les sociologues du cinéma? Et j'aimerais peut-être que, dans un premier temps, on commence par quelques fondamentaux. Quelles sont les principales questions que le cinéma pose aux sociologues, Olivier Meuchler?
Alors, le cinéma a toujours, dès pratiquement ses débuts, posé des questions à la sociologie, de par le fait qu'il était répandu partout dans le monde et qu'il s'agit d'une forme d'expression, disons, technique, économique, qui est d'emblée mélangée à ces éléments-là. Et donc, au fond, et d'ailleurs, dès le début, justement, les questions que sont posées les sociologues, mais aussi d'autres chercheurs, étaient quand même liées à cet effet idéologique, ou ce poids, ou cette domination, au fond, des films et du cinéma sur le public. On avait des craintes, notamment, sur l'effet néfaste des films, un peu les mêmes qu'on a eu après par rapport à la télévision et qu'on a aujourd'hui par rapport aux jeux vidéo. Ça continue, au fond, notamment la violence, est-ce que ça crée ou entretient ou renforce des sentiments violents chez les jeunes. Donc, ces études-là, il y en a depuis les années 30 aux États-Unis, etc. Et ça, c'est une des pistes qui a été suivie. Et une autre piste qui est aussi un peu, peut-être un peu oubliée, enfin qui est un peu en train d'être dépassée aujourd'hui, c'est celle un peu de voir les films comme des reflets de la société, puisque ces films sont faits pour un grand public et par une équipe nombreuse. Il y avait des chercheurs comme Krakauer, par exemple, qui a un peu fondé ce courant-là, Siegfried Krakauer, qui disait que finalement, un film, du coup, reflète justement la mentalité de la nation. Enfin, il y avait des termes assez difficiles à manier aujourd'hui. Et justement, c'est un peu une perspective qui est peut-être un peu dépassée, qui est en train d'être renouvelée aujourd'hui.
Donc, ce serait un peu un jeu de miroir. Il y aurait d'un côté les films et leur influence sur le public, mais d'autre part, le film comme témoignage de ce qu'est la société à une époque donnée.
Voilà, on avait de la peine. Alors, en lien avec ce côté technique et économique très fort dans lequel s'inscrit assez rapidement le cinéma, et aussi nationaliste, à imaginer le cinéma comme quelque chose d'autre que soit dominé par son contexte, soit dominant ce contexte.
Outil de contexte, propagande, pratiquement.
Voilà, c'était un peu toujours ces deux, ça versait dans ces deux écoles-là.
Alors, le cinéma fait débat depuis longtemps, et voilà ce qu'on entendait il y a tout juste 15 ans sur le plateau de Spécial Cinéma de la TSR, avec Christian Defaille, entouré du critique Pascal Berchi et de Freddy Buach, alors directeur de la Cinémathèque.
Ce cinéma n'a pas d'ambition, pas d'originalité. C'est un constat accablant. Il ne traite que de psychodrames intimistes, de crises existentielles préalpines. Ce sont des amateurs sans inspiration. C'est ce que vous avez écrit. C'est ce que vous pensez.
Pour la plupart des cinéastes, oui. Mais bien sûr, il ne faut pas généraliser.
Moi, je pense qu'on ne va jamais s'en sortir si on parle du cinéma. Parce qu'il y a le cinéma, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Il y a plusieurs cinémas. Alors, il faut savoir de quoi on parle.
Les voix sont inénarrables et identifiables, on va dire ça comme ça,
Olivier Meuchler,
tout à fait. Un débat très animé, on était en 86, c'était donc ce plateau de télévision de Spécial Cinéma. Aujourd'hui, on ne débat plus tellement du cinéma à la télévision, Olivier Meuchler, en tout cas pas à la télévision suisse romande.
Alors, plus à la télévision, honnêtement, pas à la télévision suisse romande, mais en débat, on en parlera peut-être plus tard dans cette émission. On en débat beaucoup, alors on en parle déjà maintenant, mais à la radio, mais il y a aussi effectivement, grâce à Nicolas Bidot, le cinéma, notamment le cinéma suisse, a repris du poil de la bête dans l'agenda médiatique.
Voilà, parce que tout ce discours que résume comme ça très bien d'ailleurs Christian Defaille, crise existentielle préalpine, etc., pour qualifier le cinéma suisse de l'époque, donc des années, là on était en
80. Tout ça sous 80, la plume de Pascal Berthier, ouais.
Voilà, on était en 86, ça c'est un discours qui est en train quand même un peu de céder le pas, j'irais à une forme, l'émergence, disons, d'un sentiment un peu plus positif à l'égard du cinéma aujourd'hui, hein. Pour le public.
Oui, je crois que ce que disait Freddy Buach, c'est donc la Suisse n'existe pas, ça on le savait.
Le
fait que le cinéma n'existe pas, ça on le savait peut-être moins, mais c'est vrai, le cinéma n'existe pas. Il y a plusieurs cinémas, et en gros, depuis les années. Enfin, il y a eu toute une période qu'on appelle la période classique hollywoodienne des années 30 à 60, où il y avait peut-être une sorte de schéma dominant du cinéma, justement, hollywoodien. Mais depuis, au fond, les années 60, et le nouveau cinéma suisse en fait partie, il y a une sorte de fragmentation, et notamment une grande bipartition du cinéma entre d'un côté un cinéma plutôt confidentiel ou devenu de plus en plus confidentiel, le cinéma d'auteur, et de l'autre côté effectivement des grosses machines, alors toujours hollywoodiennes et autres, qui attirent un public plus large et qui occupe moins du coup les critiques et les spécialistes.
Mais la palette est même plus diversifiée que ça. J'irais pas d'un côté le film intimiste et d'auteur et de l'autre côté l'énorme machine à la production américaine. On l'a vu avec les films de ces dernières années dont vous nous avez souvent parlé, Nicole Duparc. La palette est heureusement plus diversifiée que ça, non?
Oui, tout à fait. Donc là, je fais une caricature. Et en plus, non seulement elle est plus diversifiée, mais ensuite, il y a les tentatives de. Alors, je cite effectivement Nicolas Bideau, populaire et de qualité, de créer des synergies, des synthèses, et d'essayer, alors peut-être comme avait réussi peut-être un Fellini, je ne sais pas, pas en Suisse, à faire justement une synthèse entre quelque chose de personnel, qui a une écriture personnelle, et qui peut plaire à un public large.
Alors, Olivier Mouchner, on va en revenir à cette sociologie, à notre question, à quoi servent les sociologues du cinéma. Vous donnez donc un cours à l'université de Lausanne sur la sociologie du cinéma. Tout simplement, qu'attendez-vous de vos élèves à l'issue de cette formation? Quel est, entre guillemets, bien sûr, le message, si on peut dire, que vous cherchez à transmettre à travers cet enseignement?
Alors justement, ce qui est important, en tout cas, de faire comprendre quand on analyse le cinéma, que ce soit le cinéma suisse ou le cinéma en général, et la sociologie du cinéma, puisqu'on a toujours un peu une double approche à l'université, on analyse à la fois un objet et l'approche qui permet de comprendre cet objet. C'est effectivement de comprendre que ce même phénomène a pu être compris par différents moyens, et selon le contexte historique notamment, selon l'époque, a pu être interprété de manière différente. Et effectivement, les approches dont je parlais tout à l'heure, qui étaient tout à fait d'actualité dans les années 30-40, il y a aussi toute la théorie des industries culturelles de l'école de Francfort,
qui
parlait notamment du cinéma.
Voilà, et comme un instrument de manipulation des masses.
Hein. Était même le centre de cette industrie culturelle au singulier, justement. Ils utilisaient le terme au singulier, alors qu'aujourd'hui, on parle des industries culturelles comme si de rien n'était. Et donc, de voir qu'il y a eu différentes interprétations de ce même média qui du coup peut devenir, alors, ensuite peut devenir tout à fait dans d'autres approches quelque chose qui s'approche justement de formes d'expression artistique plus classiques, plus traditionnelles. Et c'est au fond ce que j'étudie dans mon travail sur les années 60-70. C'est ce moment où, le cinéma s'autonomise, au fond, grâce à une politique fédérale, s'autonomise et devient art, enfin est défini comme quelque chose de plutôt artistique, alors qu'avant c'était plus une industrie.
Alors, on reviendra effectivement dans un tout petit moment sur ce travail-là que vous présentez ce soir, mais par rapport à cet enseignement, vous avez cité quelques noms de figures, de penseurs. On peut également en citer d'autres, comme Edgar Morin, comme Pierre Bourdieu, qui s'est intéressé de très près à cette question du cinéma, du champ cinématographique. Donc, on imagine mal, bien sûr, qu'il y ait un consensus comme ça dans le champ de la sociologie du cinéma.
Mais moi, j'aimerais juste comprendre comment se déroule un cours. Est-ce que vous partez d'un film, vous partez d'une époque, vous partez d'un texte d'un sociologue du cinéma? Comment ça se construit concrètement?
Alors, disons, en sociologie, le cinéma est traité dans différentes facultés. Effectivement, en lettres, il y a toute une section de cinéma, il faut quand même le dire. C'est surtout là qu'est traité le cinéma.
Esthétique et histoire du cinéma.
Et là, on parle plutôt esthétique et histoire, d'ailleurs, ce qui n'est pas la même chose. Histoire, on parle plutôt du contexte, au fond, et esthétique plutôt des textes, des films. Et en sociologie, évidemment, on est d'emblée plutôt dans le contexte. On est d'emblée plutôt dans ce qui se passe autour des films, autour des œuvres. Et donc, les publics, les moyens de diffusion, de production, d'évaluation des films, c'est plus ça qui intéresse, au fond, les sociologues que les œuvres elles-mêmes, au fond.
Donc, ce qui veut dire que la sociologie, par exemple, ne nous permet pas forcément de mieux comprendre la façon dont le cinéma a investi nos vies, le fait qu'il soit devenu la pratique populaire, culturelle la plus populaire aujourd'hui.
Si, alors ça, oui,
et depuis longtemps d'ailleurs.
Les pratiques, après le public, les pratiques, etc. Ça, c'est typiquement le terrain du sociologue. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs des petites escarmouches après sur est-ce qu'un sociologue peut parler des films, etc. Donc d'ailleurs, ces approches dont je parlais tout à l'heure, le reflet, le cinéma comme reflet, etc., sont justement moins d'actualité aujourd'hui. Il y a un tournant un peu en sociologie où on s'intéresse beaucoup plus maintenant à ce que les gens, que ce soit d'ailleurs les cinéastes, le public, les producteurs, les experts qui décident de quel projet financer, etc., que tous ces gens font avec les films, comment ils les interprètent, plutôt que ce soit le sociologue qui dise « ce film signifie ceci ou cela ». On est un peu parti de cette image prophétique du sociologue pour aller s'intéresser à comment les gens eux-mêmes, les acteurs sociaux, comme on dit en sociologie, s'intéressent et traitent et débattent d'ailleurs de ces questions. Hein. Quel sens a ce film et selon quels critères ils interprètent ensuite un film. C'est plus ça, c'est plutôt une analyse des interprétations qu'une interprétation elle-même.
Olivier Meuchler, je l'ai dit très brièvement, vous avez donc fait une étude sur les publics en Suisse, notamment les jeunes, le jeune public suisse. Que dire justement de l'évolution de ce public en Suisse? On sait qu'aujourd'hui la fréquentation des salles quand même est en baisse, because entre guillemets le DVD, le home cinéma, etc. Donc se voir ensemble du cinéma qui bien sûr intéresse le sociologue est en train de laisser place à d'autres formes.
Oui, à d'autres formes qui, disons là où c'est intéressant, c'est que c'est d'autres formes qui sont tout aussi voir ensemble. Simplement, c'est un voir ensemble dans la sphère privée. Si vous allez dans une vidéothèque, enfin ça s'appelle peut-être plus comme ça aujourd'hui, parce que c'est des DVD. Aujourd'hui, vous emportez un DVD ou deux ou trois pour le prix d'un film, d'une entrée de cinéma, mais vous avez des sortes de seaux de pop-corn, par exemple, qui sont mis empilés dans un coin. Donc vous achetez au fond, enfin vous louez un morceau de cinéma au fond, enfin le cinéma tel qu'il est représenté aujourd'hui, c'est avec des pop-corn. Et donc, et puis avec le bimère à la maison aussi, les gens recréent au fond. Donc le cinéma, il continue à vivre au fond, simplement, et c'est plus forcément dans les salles de cinéma que le cinéma se passe en fait. Hein. Le cinéma est recréé chez soi, et c'était une des choses qu'avait montré cette étude, mais d'autres études aussi, c'est que sur, disons, 100 films que voit une personne dans l'année, il y en a 98 ou 95 qui sont vus à la maison sur un support quelconque, et il y en a 2 ou 3 ou 4 ou 5 qui sont vus au cinéma. Donc en fait, c'est le cinéma se passe ailleurs que dans les salles de cinéma, ce qui pose évidemment problème pour les propriétaires de salles.
Alors pour en revenir au cinéma suisse, est-ce qu'on en sait plus du rapport que les jeunes entretiennent avec le cinéma suisse aujourd'hui? Il y a des films qui leur ont plu particulièrement?
Alors là, ce qui était très intéressant par rapport aux jeunes, c'était qu'il y a vraiment une bipartition totale entre les jeunes alémaniques, hein, parce qu'une des questions qu'on avait posées, c'est quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? C'est une question ouverte. Donc on avait 1400 mots qui ont été donnés par les 1400 personnes interrogées. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en pensant au cinéma suisse? Et les alémaniques, les jeunes alémaniques, c'était en général des titres de films récents, Charlie, Eugen, ils disaient carrément un peu affectueusement comme ça le diminutif, le dire Achtung fertig Charlie, etc., divertissant, etc., enfin, en allemand. Et du côté roman, il y avait évidemment, que ce soit chez les jeunes d'ailleurs comme chez les plus âgés, plutôt les clichés qui ressortaient, voire des de ce cinéma des années 70 justement, soit, ou alors même des phrases comme « est-ce que ça existe ?» enfin qui peuvent être ironiques.
Alors la faute à qui?
La faute au cinéaste. Non, pas au cinéaste. La faute, disons, ce qui se passe en Suisse, c'est que on a un peu la situation particulière en Suisse. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui montrait de l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, qui montrait que on est la plus grande nation du cinéma en fait en Europe. Si on regarde le nombre de longs métrages qui sont produits par 1000 habitants, c'est calculé comme ça. En Suisse, il y a le plus de longs métrages qui sont produits, calculés comme ça. Simplement, on les voit pas.
Ça fait très plaisir.
On les voit pas. Ça fait plaisir et aussi parce que justement, lui, ce qu'il dit, et c'est vrai, c'est que ses films terminent dans des boîtes de bobines. Enfin, on les voit pas. Il y a plein de films qui sont produits, mais on les voit pas. Et donc, mais ça, c'est depuis les années, effectivement, depuis le changement que j'analyse dans les années 60-70, problème de distribution. Il y a des films qui sont produits, qui sont financés de plus en plus à un moment donné par l'État, mais qu'on ne voit pas, qui ne sont pas montrés en salle parce que...
Mais il y a peut-être aussi un problème de région linguistique qui produit ces films. Aujourd'hui, les films dont vous avez parlé sont produits en Suisse allemande, donc les alémaniques les voient d'abord. L'image que les romans gardent du cinéma suisse, c'est celui des années 60 et 70, avec un cinéma réputé un peu lent, un peu ennuyeux, un peu d'un autre temps.
Et puis au fond, ce qui n'est pas forcément clair, mais enfin ça c'est un autre débat, mais peut-être je vous propose justement, pour se remettre dans le bain des 60s, dont on parle abondamment aussi en ce mois de mai, Olivier Meuchler, petit retour de manivelle avec un extrait d'une émission où vous allez sans doute reconnaître la voix d'un certain Alain Tanner.
Je crois que l'erreur qui a été commise un certain nombre de fois en Suisse a été d'essayer de vouloir faire du cinéma commercial, traditionnel, de concurrencer les cinémas des pays qui nous entourent. Nous n'avons rien pour ça. On a essayé de créer des acteurs, de faire du cinéma avec beaucoup d'argent, et puis c'était des grosses machines, et on n'avait absolument rien pour entrer en compétition avec le cinéma commercial des pays étrangers. Mais je crois que, en fait, nous sommes condamnés à la qualité, ce qui est pas mal du reste, et puis nous sommes également condamnés à une autre chose, c'est à créer des auteurs. On ne vendra jamais un film suisse à l'étranger sur des qualités commerciales, on les vendra uniquement sur des noms d'auteurs.
Alors, réaction, Olivier Meuchler, à ce que disait donc Tanner en 1964.
Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est exactement le début au fond du processus que j'analyse, qui dure de 63 à 70. 63, c'est l'entrée en vigueur de la loi sur le cinéma.
Et au fond, donc pour la première fois,
voilà, avant il n'y en avait pas, et donc le début d'une politique fédérale du cinéma. Et tout l'effort que vont faire, disons, c'est ce que j'appelle moi les nouveaux cinéastes, enfin Alain Tanner, Mourad,
ce que tout le monde appelle les nouveaux
qui
cinéastes,
qui sont ensuite devenus les ceux qu'on connaît, quoi, encore aujourd'hui justement comme auteur, c'est de convaincre l'État que finalement on peut pas en Suisse, qui est un petit pays divisé en plusieurs régions linguistiques, etc., avoir d'industrie du cinéma comme il y en a eu dans les années 40-50. Il y a eu une petite industrie.
Il y a
du
eu une amorce
alémanique.
Ouais, ouais. En plus qu'une amorce. Il y a eu des projets sur
la. Alors en Suisse romande, c'est des projets, et puis en Suisse allemande, il y a eu une sorte de petite industrie du cinéma favorisée d'abord par la guerre, deuxième guerre, ensuite par effectivement des thèmes très pantouflards qu'on appelait petits bourgeois, enfin nationaux, mais au fond alémaniques, voire zurich. Quoi. Il y a eu tout ça. Simplement, à ce moment-là, en 60, là, début 60, c'est en crise. Et effectivement, Alain Tanner et ses acolytes, au fond, leur discours, ce serait, effectivement, comme il dit, on est condamné à créer des auteurs, à faire de la qualité, parce que leur but, c'est ça, c'est de convaincre effectivement l'État, qui hésite à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant, l'État hésite à financer, est-ce que c'est plutôt un nouveau cinéma suisse commercial, est-ce que c'est plutôt les anciens producteurs qu'on va financer, etc. Et ces nouveaux cinéastes, ce que j'ai appelé comme ça, leur but, c'est évidemment de non seulement d'attraper leur part du gâteau, mais d'essayer d'attraper le gâteau. Et donc, pendant toutes ces années, jusqu'en 70, pendant 7-8 ans, ils vont parlementer, discuter avec l'État, en font les commissions qui décident des projets, etc., jusqu'à obtenir une révision, effectivement, une révision de la loi sur le cinéma en 70, c'est un peu juridique, mais cette révision, au fond, permet tout d'un coup de subventionner des auteurs, un cinéma d'auteurs. Et c'est là qu'ils ont gagné, en fait, ils ont gagné. Ouais. Et ça a duré, effectivement, plusieurs décennies.
Les cinéastes rebelles ont gagné. Hein. Vous parlez de révolution culturelle, donc terme fort.
Révolution culturelle dans le sens où effectivement jusqu'à ce moment-là, les années 60, il était difficilement pensable en Suisse, c'est le conseiller fédéral Tschudi aussi qui est à cette époque conseiller fédéral qui le dit plusieurs fois, de financer la création de films. On voulait pas financer de films de fiction. On n'était pas d'accord de financer la création de films de fiction directement, des projets, parce qu'on voulait pas que l'État influence la création artistique au fond. Et on était d'accord de financer éventuellement un studio, mais qui a pas vu le jour, de financer, de primer des films. Fini, ça oui, mais de financer des œuvres en train d'être faites, des scénarios, etc., non. Et pendant ces années que j'étudie, petit à petit, il y a un consensus qui se crée autour de cette idée que non, finalement, l'État suisse, qui d'habitude ça s'implique pas tellement dans la culture, il faut le dire, hein, pays fédéraliste, etc., dans le domaine du cinéma, c'est ça la révolution culturelle, effectivement, tout d'un coup, en 70, il y a le consensus, non, dans ce domaine-là, on peut financer des œuvres et on va le faire. Et ça a donné ce nouveau cinéma suisse qu'on connaît tous.
C'est vraiment intéressant parce que ça rappelle à quel point l'État craint d'avoir une mission qui serait celle d'un État de propagande, parce qu'il y a eu un cinéma de propagande quelques décennies plus tôt, et alors qu'aujourd'hui le débat est tout autre et qu'on ne s'inquiète même plus de faire financer ces films par qui que ce soit, d'où qu'il soit et quelle que soit l'origine de l'argent, l'important c'est de faire ces films. Ce que je trouve important aussi, c'est que le débat dont il est question dans les mots d'Alain Tanner, c'est le débat qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il faut soutenir un cinéma
dans un contexte, voilà, on a
les mêmes termes qui ont 30 ans de plus ou 40 ans de plus, ouais. Simplement aujourd'hui effectivement la politique qui est mise en œuvre est un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va aller vers un cinéma de producteurs plutôt.
Et on pourrait imaginer qu'une industrie du cinéma renaisse avec ce changement d'orientation de la
politique. C'est ce que certains imaginent. Ou disons, ils imaginent de faire les deux. Alors qu'effectivement, en 70, l'État s'était décidé. Il avait dit, on peut pas faire les deux. On fait que cinéma d'auteur qui est moins cher, qui est plus prestigieux. Mm-hmm. Ça apporte des prix à l'étranger. Aujourd'hui, on veut faire les deux. Est-ce que c'est possible? On verra.
Mais quand on parle effectivement des mêmes questions, mais dans un contexte, pour le coup, tout autre aujourd'hui, on peut, pour mémoire, rappeler les propos très durs de Pierre Knut celle de Pro Helvetia sur le cinéma, mais aussi sur tous les autres plus celle de Pro Helvetia sur le cinéma, donc un discours assez raide, on va dire
provocateur, on dirait
provocateur, et puis de façon plus générale un durcissement de la classe politique par rapport au financement de la culture et du cinéma, bien sûr.
Voilà, et du coup, effectivement, se pose la question d'à quoi servent les cinéastes, effectivement. C'est-à-dire que du moment où ça coûte cher, et notamment le cinéma coûte cher, hein, un livre, je pensais tout à l'heure, vous pouvez écrire un livre pour 2 francs 50, enfin, vous achetez un bloc-notes et un stylo, bon, c'est un peu plus cher parce qu'après vous devez l'imprimer, etc. Mais ne serait-ce que de faire un pilote pour un film coûte des dizaines de milliers de francs. Donc le cinéma étant très cher, d'emblée se pose du coup cette question, effectivement. Bah, si on finance des films, les pouvoirs publics, au fond, hein, parce que l'argument c'est de dire si les pouvoirs publics financent des films suisses, ben, autant qu'ils soient accessibles au public, ce qui n'est pas complètement absurde non plus. Effectivement, dans le cas du cinéma, cette question de l'utilité, qui a l'air un peu absurde, hein, à quoi servent les cinéastes, à quoi servent les artistes, se pose de manière peut-être plus lancinante, puisque effectivement, ça coûte des centaines de milliers, des millions de francs.
Et que le cinéma est encore l'art le plus populaire. Merci Olivier Mecher, on a un petit peu mieux compris à quoi servent les sociologues du cinéma.
J'espère.
Et puis on rappelle votre conférence ce soir 18h15 à Unimage Genève, dans le cadre du forum Les Mutations Culturelles sous la loupe des sociologues.
Merci Nicole Duparc.